Bras zéro, brassage radio. On les a reçus deux fois, trop rapidement, lors de nos bras zéro rentrées.
Alors ce soir, on prend enfin le temps de les accueillir tranquillement au micro de Canal.
L'association Clarté, dont les lettres se déclinent par care, lutte, atelier, rage, transidentité. Le sigle en dit long.
Une asso toulousaine de lutte et d'autosupport, d'entraide par et pour des personnes trans et en questionnement, qui existe depuis 2016.
Et par les temps qui courent, il est plus important que jamais d'entendre dans les médias les personnes minorisées et en lutte. Alors, bienvenue.
Salut.
Salut.
Coucou.
Alors, du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà individuellement qui vous êtes et après, c'est quoi Clarté en fait ?
Yes, moi c'est Jade, du coup je suis militante à Clarté depuis 2020 je suis arrivée là parce que j'avais envie de formaliser un peu tout ce que je faisais de militant dans ma vie et de, que ce soit cadré dans une asso, mais qu'en même temps ce soit qu'il y ait une souplesse en fait pour faire plein de projets différents et c'est un peu ça Clarté, donc ça m'a tout de suite parlé quoi. Voilà.
Et moi c'est Poppy, j'étais à Clarté, parce que du coup je suis parti à la fin du mois de décembre, mais je continue à assurer de temps en temps l'alternance. J'y suis rentré en 2022, parce que j'avais envie de militer avec d'autres personnes trans, et ça a été 2 ans très intenses, mais très intéressants, du coup c'était chouette.
Et du coup, c'est quoi Clarté ? Enfin, Jade t'a un peu dit, mais plus précisément, on va dire.
Mmh. Comme vous avez déjà dit, c'est une asso à la base qui part vraiment de l'idée de l'entraide communautaire, quoi. Et qui essaie de décliner un peu ça dans tous les domaines déjà qui intéressent les personnes qui font partie de Clarté. Et aussi qu'on trouve important à mettre en avant. On est sur des sujets qui touchent à la santé, aussi aux difficultés sociales, précarité, tout ça, à la formation, l'accueil et la convivialité, il y avait aussi un pôle culturel, un pôle droit, mais en fait, c'est suivant les énergies et les envies des militants du moment que ça se construit, quoi, on va dire. On a un fonctionnement qui se veut le plus horizontal possible. c'est une asso collégiale qui est ouverte à toutes celles et ceux celle qui voudrait rejoindre, il y a un petit processus d'adhésion, pour rejoindre la collégiale, mais globalement c'est quand même assez simple, on essaie que ce soit assez simple. Puis après on a des positionnements politiques et tout, qui sont toujours un peu en discussion, qui sont mouvants, je sais pas si...
C'est que disons que la charte est toujours pas complètement rédigée, on n'est pas pris dans l'urgence des différents pôles du quotidien d'une asso avec tout ce que ça comporte d'administratif, de réunions, de nouvelles personnes qui arrivent, toujours garder en tête cette horizontalité, donc la parole de la personne qui vient d'arriver a autant d'importance que celle qui est là depuis plusieurs années. Donc du coup tout ça fait que sur les grandes lignes tout le monde se retrouve, je pense que sinon on militerait pas ensemble, mais qu'après, sur des points de détail, sur des choses sur lesquelles ça nécessite de discuter, effectivement, on a pris le parti de prendre le temps de discuter à chaque fois de chaque sujet, de vraiment écouter les avis de tous, et donc du coup, on peut prendre un certain temps avant de formaliser les grandes lignes politiques. Donc oui, on a une charte en cours de construction depuis à peu près 2016. Ça va, on avance doucement, quoi.
Après l'auto-organisation, l'horizontalité, on sait que c'est du temps. si on veut la faire vivre. Donc voilà, rien n'est figé et voilà, bon, ça paraît logique hein, que ça prenne.
Oui, puis on n'a pas eu de mauvaise surprise non plus, on ne s'est pas rendu compte d'un coup qu'on avait quelqu'un qui était royaliste, enfin voilà, il n'y a pas de... sur les grandes lignes, on est quand même basiquement tous d'accord, quoi. Ça va.
Après, globalement, quand même, on va dire, ce qui nous distingue peut-être par rapport à d'autres collectifs ou assos qui sont sur les questions trans, c'est que déjà, on est né au sein d'une période où il y avait l'envie de s'autonomiser par rapport aux luttes LGBT en général. Et du coup, d'où l'idée de faire une asso qui soit vraiment centrée sur les questions... Alors, d'ailleurs, à l'époque, c'était trans et intersexe. Et on s'est recentré... c'était avant que j'arrive, mais il y a eu la décision de se recentrer vraiment sur les luttes trans, principalement pour une question de légitimité, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de personne qui était positionnée out en tant que personne intersexe dans le collectif. Et qu'il y a d'autres collectifs qui sont vraiment spécialisés sur les luttes intersexes. Donc, on avait pris la décision de vraiment laisser la place aux personnes concernées. Et en tout cas, oui, c'est ça, d'avoir cette autonomisation par rapport au mouvement LGBT en général. C'était vachement important parce que c'est vrai que sinon on peut vite se retrouver minorisé au sein même des luttes queer, quoi. Et aussi, la deuxième chose, je pense, qui était importante pour les personnes qui ont fondé Clarté et qui l'est toujours pour nous aujourd'hui, c'est le féminisme. Enfin, c'est d'avoir quand même un positionnement féministe qui est au centre de ce qu'on fait, quoi. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas des assos LGBT ou même trans. Voilà. Et après... En tout cas, sur ça, je pense que c'est vraiment le dénominateur commun. Après, il y a plein d'autres choses, je pense, sur lesquelles on est d'accord politiquement au sein du collectif, mais il faudra venir nous voir en réu et tout pour en savoir plus. D'ailleurs, un truc qui est aussi important de dire, c'est qu'on est ouvert aux personnes en questionnement. Et quasiment tout ce qu'on fait, c'est ouvert aux personnes en questionnement. Donc, voilà, En tout cas, on essaie d'être quand même une asso assez ouverte, quoi, même si on traite les questions trans et non-binaires en priorité. En fait, finalement, on s'adresse à tout le monde, quoi. Mmh. Voilà.
Mmh. Ok, et du coup, vous avez parlé de pôle. Comment ça marche, en fait, un peu concrètement, si je comprends bien, c'est des commissions, vous êtes nombreuses, nombreux, un peu, ouais, le côté pratique de la vie de Clarté.
Ouais. Il y a, de mémoire, il y a une dizaine de personnes à peu près actuellement à Clarté. Les pôles, c'était pour pouvoir avoir des organisations, on va dire, semi-autonomes au sein même de l'asso. Donc, que les personnes puissent fonctionner. Après, ça fonctionne un peu comme des mandats, en fait. C'est que les gens qui ont envie de s'occuper de tel pôle s'en saisissent. On a des réunions de toute façon toutes les deux semaines pour justement faire le point sur chaque pôle, et puis quand il y a des grosses prises de décision, on revient à l'horizontalité pour pas qu'un pôle soit complètement justement trop autonome et commence à prendre des décisions qui engagent le reste de l'asso sans prévenir le reste de l'asso. Donc du coup sur les pôles, tu les as déjà pas mal redonnés. Il y a le pôle accueil qui a une permanence une fois par mois à l'EDL, donc à l'espace diversité laïcité. On a le pôle social qui en est à deux permanences maintenant, du coup. En tout cas, c'est en train d'être mis en place pour essayer d'en avoir une de plus. À la base, il y en avait une par mois. Et puis, il y a quand même, c'est un des pôles qui est les plus sollicités. Donc du coup, le fait d'avoir une deuxième permanence, ça avait tout son intérêt. Donc le pôle culture est en stand-by, mais est remis en fonction dès qu'on a une idée à proposer. Il y a eu une sortie ciné, par exemple, en 2024. Jade a fait un atelier théâtre, c'était de 2023 à début 2024, si je me souviens bien. On avait un pôle sport aussi qui organisait des sorties piscine principalement, et on a fait quelques sorties escalade aussi à l'été 2023. Donc voilà, enfin tout ça fonctionne en général avec 2-3 personnes motivées pour tenir le pôle, Et puis bah, après, en fonction de l'énergie des personnes, on essaye de plus ou moins les faire tourner. On a pris la décision de fermer les pôles qui n'étaient pas actifs. Donc du coup, bah, le pôle droit n'existe plus pour l'instant, par exemple. Mais c'est toujours, hein, bah, voilà, à partir du moment où il y a des personnes qui sont intéressées, qui ont envie de s'y mettre, bah, on essaye de faire la passation et puis de faire en sorte que les personnes puissent s'autonomiser au mieux dessus, quoi. Ce qui n'est pas toujours évident parce qu'il bah, y a souvent des trous dans la raquette et qu'il manque des infos quoi, entre les personnes qui sont parties, celles qui viennent d'arriver. Les transmissions ne sont pas toujours aisées, mais ça se fait au fur et à mesure. Le pôle formation est en train de renaître, par exemple. Il avait disparu pendant un moment et puis on a bossé dessus toute l'année dernière. Et là, je crois qu'il a même donné sa première formation il y a quelques semaines, donc... ça avance.
Ah oui, parce que Clarté t'organise de formation ou officiellement officiellement
pas Calliope. Encore, mais justement c'était l'idée d'obtenir l'agrémentation Calliope pour cette année normalement, donc ça devrait se faire. Et sinon Clarté avait déjà donné des formations de toute façon, je pense que oui.
Oui, je confirme.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y en a eu une de faire pour faire face il y a 2-3 ans. Donc du coup, ouais, ce pôle avait existé depuis un moment de toute façon, mais il avait été mis en stand-by parce qu'il y avait qu'une seule personne qui s'en occupait quasiment à ce moment-là. Et donc du coup, là, ça y est, on a à nouveau un effectif de 3 personnes qui sont motivées et ça reprend doucement.
Super. Et du coup, il y a un ou une salariée, non, maintenant, ou plusieurs, peut-être, je sais pas.
Pour l'instant, oui.
Ouais, bah, il y a... On a fait ce choix de recourir au salariat, ce qui n'était pas forcément évident, mais voilà, ça a des avantages et des inconvénients, comme beaucoup de choses. Et là, actuellement, ouais, il y a une personne qui est salariée 28 heures par semaine, mais qui est en alternance, donc ouais, c'est pas toutes les semaines. Et qui est du coup vraiment sur le pôle social. Donc c'est de l'accompagnement en gros sur des difficultés qui, en général, c'est souvent des choses qui dépassent, on va dire, les difficultés classiques qu'on a déjà quand on est trans et qui s'accumulent et tout et qui donnent lieu à, en fait, à besoin d'un suivi individuel, quoi. Et voilà, du coup, il y a des permanences pour ça. Vous pouvez, bah, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui seraient intéressées, on donnera les contacts à la fin de l'émission. Mais en tout cas, c'est le rôle principal de ce salarié de faire ça, parce que bah, quand on fait un suivi, souvent ça s'étale sur plusieurs mois, voire plusieurs années, en fait. C'est très important de garder, enfin pour moi, c'est très important de garder le côté entraide, pair à pair, qui existe depuis le début de Clarté, dans des permanences collectives où il peut y avoir de l'échange d'informations et tout. Mais des fois, il y a besoin d'une certaine continuité, en fait, qui est quand même peut-être plus facile à assurer par quelqu'un qui est salarié, qui est là sur plusieurs années, qui peut avoir des dossiers bien classés, tout, où les bénévoles, en général, il y a quand même un turnover assez rapide qui fait que c'est peut-être plus compliqué.
Et puis il y a toute la notion de travail gratuit, des choses qu'on peut peut-être pas demander à des bénévoles, ou ouais, pas trop, voilà, en termes de temps, d'engagement et tout ça. Donc c'est vrai que... Ça pose toujours question, la question du salariat dans le milieu associatif, autogéré, auto-organisé et communautaire, ça peut poser question, mais en même temps, il y a des raisons aussi derrière.
Bah, on aimerait bien faire un système de mutuelle où juste on prend les subventions et on répartit l'argent comme on veut et tout, mais malheureusement, ça fonctionne pas comme ça, quoi. On se ferait assez rapidement taper sur les doigts, puis voilà, puis les gens ont des réalités aussi qui fait que... Il faut pouvoir se projeter, quoi. Donc le contrat de travail, ça reste quand même quelque chose qui est important, quoi. Du coup, on s'y tient, on respecte le droit du travail et tout, et je pense que c'est important.
Ça va, la collégiale est une bonne patronne.
On apprend, hein.
Faudra peut-être demander aux salariés sans qu'on soit là pour être sûr, mais en tout cas, on essaye de faire du mieux qu'on peut.
Ouais, puis c'est un tracé, c'est quelque chose aussi à prendre en considération, parce qu'effectivement, à partir du moment où on a des personnes qui sont salariées, c'est plus du tout le même fonctionnement, c'est plus les mêmes responsabilités. Mmh. On n'a pas forcément été formés aux ressources humaines, enfin, c'est pas... C'est... Bon, bon, tout ce que je pense de bien des ressources humaines, hein, mais, c'est, mais malgré tout, ça reste quand même, il y a des choses à prendre en considération, ne serait-ce qu'en droit du travail, effectivement, et que bah, dans l'associatif, on a souvent tendance à fonctionner par affinité et par conviction, mais donc des fois, on en oublie aussi qu'il y a aussi une réalité de ce que c'est que le travail salarié, de ce que c'est que de prendre soin d'une personne qui est salariée, et c'est pas du tout la même chose, donc ça s'apprend au fur et à mesure, et on espère que justement il y a assez de transparence au sein de l'asso pour que les retours des salariés puissent être les plus précis possibles pour justement pouvoir corriger le tir si à un moment donné on se rend compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, qu'il y a un lieu qui n'est pas adapté, des choses comme ça. Enfin, c'est l'outil de travail, on le crée avec la personne qui est salariée. Mais, mais justement, comme il y a toujours cette notion d'horizontalité, ça nécessite d'avoir un véritable échange et de ne pas être juste dans quelque chose de descendant. Mais pour ça, bah, ça nécessite d'être à l'écoute et de faire attention à tout ça, quoi, de ne pas se laisser aller sur « oui, mais en fait, tu as juste à passer un coup de fil si ça ne va pas ». Parce que la relation de personnes qui touchent un salaire, même de la part d'une association, ce n'est pas la même que de la part de quelqu'un qui est bénévole, qui peut justement partir du jour au lendemain, qui peut... On n'a pas le même lien, en fait. Et donc, ça crée forcément des schémas de domination involontaire. Mais en tout cas, il y a des rapports de force qui peuvent exister. Et ça, il faut en avoir conscience. Et je pense que ça a été bien réfléchi à plusieurs reprises. Il y a eu des réunions autour de ça, puisqu'on a des réunions de fond à Clarté régulièrement. Et donc, c'est un sujet qui a été longuement évoqué. Et sur lequel je pense qu'on a bien avancé là-dessus. Donc, je trouve ça intéressant de voir comment on gère le travail salarié au sein de l'associatif.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous en 2024? On fait un petit bilan de l'année. ou en tout cas, s'il y a un ou des trucs chouettes que vous avez envie de garder, des trucs un peu plus compliqués, voilà.
Sur 2024, il s'en est passé, j'ai l'impression qu'il s'est passé 10 ans en une année, mais sur les gros événements de l'année, bah, y a eu l'offensive du Sénat pour la loi sur les mineurs trans, qui a mobilisé énormément beaucoup de militants, militantes et trans, mais aussi on a réussi à faire quand même une espèce de grande coalition. Ça a été rejoint par, pour le coup, beaucoup de mouvements, la LFI, etc. Il y a pas mal de mouvements qui sont positionnés aussi et qu'on soutenu un peu. Donc ça fait pas longtemps que je suis dans le militantisme queer, mais j'avais l'impression que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de monde sur des rassemblements, qu'on arrive à mobiliser autant de monde, qu'on arrive à travailler entre différents collectifs et assos de façon assez spontanée. Il y a eu, ça a été un grand moment de solidarité, donc du coup c'était très chouette à voir et à participer. Malheureusement la loi est en train de passer, hein, puisque de toute façon elle est passée au Sénat et que si elle n'est pas passée à l'Assemblée nationale, c'était a priori une question, c'est parce qu'il y a eu la dissolution, mais qui permettait avant la dissolution d'avoir une chance qu'elle passe pas. Bon, après dissolution ça risque d'être un peu plus compliqué vu la dynamique de l'Assemblée actuellement, donc du coup il va falloir se faire à l'idée que 2025 risque d'être un peu plus mouvementé à ce niveau là, mais on va en parler de toute façon, hein, des offensives transphobes. L'événement moi qui m'a en tout cas beaucoup tenu occupé, c'était l'organisation des journées du soin communautaire, où on avait commencé à se positionner dessus depuis mars-avril 2024, et ça a été un long travail de mise en place pour arriver à cette semaine en novembre. Donc ça a été beaucoup de réunions, beaucoup de questionnements, mais c'était chouette. Et puis voilà, je laisse la parole.
Moi, j'ai pas forcément, enfin, au-delà de ce que tu as dit, d'événements marquants à ajouter, je pense que moi j'étais surtout sur les petits pas de fourmi, on va dire, un peu en coulisses, quoi, pour arriver à faire structurer les histoires de salariat, d'administratif, et de ce qui est aussi pas mal de taf. Et qui a quand même porté ses fruits, vu que avant en fait on a commencé 2024 avec un salarié à 20 heures par mois, donc à peu près une demi-journée par semaine, quoi. Et là, on est passé à 28 heures par semaine, donc ça fait quand même une grosse différence. Et ça nécessitait pas mal de changements. Y a eu la nécessité notamment d'avoir un espace de travail, un bureau, quoi, qui soit disponible tout le temps. Donc ça, il y a eu pas mal de péripéties. Il y a aussi des histoires de centre de médecine du travail, enfin, tous ces trucs-là, quoi, qu'il faut gérer. et bien sûr, l'aspect financier, les demandes de subventions et tout, quoi. Donc voilà, donc ça, c'était, pour moi, c'était pas mal centré sur ça, quand même, ma participation à Clarté. Et sinon, la relance du pôle formation, je trouve, c'est quand même vachement important de ce qui s'est passé en 2024, quoi, d'arriver à pouvoir vraiment... Parce qu'on a tout le temps des demandes, en fait, que ce soit des professionnels de santé ou des assos qui reçoivent du public trans, non-binaire, qui veulent... qui essaient de bien faire et tout. Et du coup, c'était important pour nous de pouvoir leur proposer quelque chose à la fois qui réponde à leurs demandes et aussi qui soit cadré de telle sorte qu'on n'ait pas l'impression de faire ça gratuitement, enfin en fait qu'il y a une forme de réciprocité, quoi, et voilà, et du coup c'est chouette que maintenant il y ait cette formation qui puisse être proposée cette année, qui soit prête et tout.
Ah là, c'est super. c'est passionnant à vous écouter, hein, franchement. Peut-être qu'on va faire une petite pause musicale, ouais. Là, histoire de respirer un peu, et puis on fait la suite juste après.
Bye. Bras zéro, approche-toi du micro.
Avec, on m'entend bien ? Oui, on m'entend bien. Donc à bras zéro avec des personnes de Clarté. On a parlé tout à l'heure un peu d'une offensive transphobe, de cette loi qui est en train de passer, et puis voilà, une ambiance de toute façon qui est de plus en plus difficile. Voilà, on voulait savoir si vous avez envie d'en dire quelque chose, et puis surtout, qu'est-ce que on peut faire en face, quelles sont les initiatives, les moyens de lutter contre ça et de prendre soin aussi des unes et des autres, voilà, dans cette ambiance.
Je sais pas, tu veux dire quelque chose ?
Alors, peut-être je te laisserai bien parler parce que je pense que tu étais plus investi que moi, en tout cas au moment de la mobilisation de l'année dernière. Après, je pourrais peut-être compléter sur certains trucs.
Disons que moi, j'ai un intérêt spécifique pour lire les saloperies qui sont écrites par le camp adverse. Donc, du coup, je me suis fadé le rapport sur la loi pour les mineurs trans, donc il fait 300 et quelques pages. Je me suis lu ça sur mes temps de pause pour essayer de bien m'imprégner de toute leur idéologie, essayer de comprendre un peu d'où ça sortait. Donc bon, effectivement, c'est un tissu d'inexactitude et c'est en partie, en fait, il y a l'Observatoire de la Petite Sirène qui est un lobby transphobe qui fait énormément de forcing pour à la fois avoir des tribunes dans les médias, avoir du poids dans à l'Assemblée, en tout cas au Sénat pour le coup, puisqu'ils ont réussi à happer des sénateurs des Républicains et à leur faire gober leurs inepties. Donc du coup, l'Observatoire de la Petite Sirène, si on doit resituer, c'est des psychanalystes principalement.
Il y a pas mal de psychanalystes ou de psychiatres d'orientation psychanalytique, mais il y a aussi d'autres corps de métier.
Oui, en fait. Ils ont des avocats d'ailleurs qui font plutôt leur qui font un gros travail d'attaque des assos. Donc du coup, c'est quelque chose qui a réussi à s'implanter malgré tout et à avoir ses entrées sur des endroits qui sont décisionnaires comme l'Assemblée nationale ou le Sénat. Ça en est pas encore au point de ce qu'on peut voir en Angleterre ou aux États-Unis. Aux États-Unis, on a un exemple parfait avec Trump qui vient à peine de prendre son mandat et qui est en train de lancer la plus grosse offensive transphobe qu'on ait jamais vue dans ce pays. Donc du coup, ils ont pas ce levier-là pour le moment, mais ça, disons que les idées pénètrent progressivement et commence à rentrer dans la possibilité qu'on puisse faire débat autour de ça, en fait. Là où on avait depuis... Il y a toujours besoin de lutter pour les droits et obtenir des droits, mais il y avait une espèce de statu quo qui faisait que depuis 2016, on avait eu la possibilité de changer d'état civil sans avoir besoin de faire d'opérations de réassignement sexuel. Et donc du coup, ça avait un peu, on va pas dire que c'était un long fleuve tranquille, mais disons qu'il y avait pas de grosse offensive transphobe aussi assumée. Il y avait pas, là on a eu les deux génies, Marguerite Stern et Dora Mouto, qui ont pu sortir un bouquin justement autour de ça. Donc il y a ça revient en fait comme sujet. Là où auparavant c'était un petit peu laissé de côté, où c'était on avait un peu plus la possibilité de s'exprimer et de donner des alternatives à ce récit là quoi. Sauf que du coup ça a réussi à pénétrer les médias et les strates de décision. L'exemple parfait, c'est Macron qui, pendant je sais plus si c'était au second tour des législatives, mais qui parle du changement de sexe à l'état civil et en disant que ce serait complètement ubuesque que ça puisse arriver, que les gens commenceraient à changer de sexe en mairie, etc. Et ça, c'est une diatribe transphobe qui n'aurait jamais été dans la bouche d'un président de la République il y a encore quelques années, quoi. C'était presque improbable, mais on a la même chose avec les discours racistes du Rassemblement National qu'on fait le taf et qui aujourd'hui, c'est ces trucs du grand remplacement, etc. Tous ces éléments de langage, en fait, on les retrouve aujourd'hui dans les grands moyens de s'informer autrement que par les médias spécialisés. Donc, ce qui fait que quelqu'un qui n'a aucune connaissance sur le sujet, aujourd'hui, sa première possibilité de s'informer, ça va être des choses transphobes, en fait, qui vont lui être proposées. Donc, c'est en ça que c'est problématique. Après, si on veut voir le côté positif, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, en France, on a un courant féministe qui est assez imperméable à ces idées-là. Ça a été un long cheminement, ça n'a pas été facile de le mettre en place, mais aujourd'hui on voit qu'on arrive de plus en plus à dégager les discours TERF des manifs, mais c'est la même chose sur les discours racistes, etc. Enfin, on voit que ça a du mal à pénétrer la strate militante. Donc c'est qu'il y a quand même un boulot qui a été bien fait par les assos, par les collectifs. Il y a eu une véritable collusion avec les milieux féministes, donc c'est plutôt positif en termes d'alliance. Après, reste à pouvoir justement aller au niveau légal, avoir un peu plus d'alliés. Il y a une loi qui a été proposée pour faciliter le changement d'état civil, enfin le changement de sexe à l'état civil, par exemple, qui est portée par les écologistes, si je ne dis pas de bêtises, mais qui du coup a peut-être une possibilité de passer aussi. Donc voilà, il y a des choses qui se grappillent aussi par le travail militant. C'est juste que les dirigeants de médias, c'est toujours un sujet qui fait vendre, quoi. Donc du coup, c'est pas avec des Elon Musk, des Trump, des Bolloré qu'on va forcément avoir la possibilité qu'une asso puisse s'exprimer en direct sur une émission. Puis si c'était le cas, je me méfierais, quoi. Enfin, je me vois pas aller à une émission d'Hanouna ou un truc comme ça pour parler des questions trans. Enfin, ça n'aurait aucun sens. Donc il y a aussi ce truc là de se dire peut-être que la sphère mainstream elle est un peu condamnée à moyen terme et que c'est pas là qu'il faut aller diffuser les idées, parce que de toute façon c'est une espèce de société du spectacle, et ce qui aujourd'hui l'emporte c'est ce qui fait vendre et ce qui fait scandale. Donc du coup le travail militant il se passe à d'autres niveaux, et il se passe à créer des alliances, à faire en sorte de pouvoir faire passer ses idées au fur et à mesure, et ça prend du temps, beaucoup d'efforts, mais on voit que ça paye, en fait, on voit que ça fonctionne.
Après juste, là j'avais vu que même, pour parler des réseaux sociaux, qui ont quand même une grosse place maintenant dans les sociétés, dans nos sociétés occidentales quand même, ça c'est ouf, même pas que occidentales. Et j'ai vu que Zuckerberg, il s'appelle le mec qui a de Meta, donc qui a
Facebook et Instagram,
qui a mis en place une politique transphobe,
oui,
et homophobe même, mais particulièrement transphobe.
Oui,
là dernièrement.
Oui, mais parce que il joue le jeu de Trump et d'Elon Musk. En fait, il essaye de se placer. Puis bon, Zuckerberg, faut pas oublier que c'est un type qui a créé Facebook parce qu'à la base, il voulait juste noter les filles qui étaient dans son université. Enfin, c'est un pauvre type qui a juste eu une bonne idée à un moment donné. Enfin, en tout cas, une idée qui lui a rapporté de l'argent. Qu'elle soit bonne, c'est encore à remettre en question. Aujourd'hui qu'il ait ce positionnement là, c'est pas étonnant. Moi ce qui m'inquiète un peu plus, c'est le nombre de personnes qu'on dit dans ce cas là il faut qu'on quitte Instagram, il faut qu'on quitte les réseaux. Ouais, mais en fait pour aller où déjà, et pourquoi lâcher le terrain, en fait? Enfin, c'est cette espèce de pureté militante à un moment donné qui était ça c'est sale, il faut qu'on s'en dégage, quoi. Alors qu'en fait Instagram ça a beaucoup servi, par exemple pour faire des... Il y a eu beaucoup de collectes pour des personnes palestiniennes qui ont été faites sur Insta. Enfin, ça a été un moyen de communiquer aussi pour des personnes qui n'avaient pas d'autres moyens de montrer ce qui se passait dans leur... la cause palestinienne, elle a beaucoup avancé grâce à ce médium-là. Alors, et malgré la censure, justement, et malgré le fait que, déjà, c'était compliqué de communiquer sur ce réseau-là. Mais si, en fait, on le laisse aux mains des Zuckerberg et des transphobes et des homophobes, etc., en fait, on perd du terrain sur un truc qui est un moyen de s'informer aujourd'hui et sur lequel on a encore la possibilité. Enfin, c'est pas compliqué, en fait, de continuer à occuper ce terrain-là. Et au contraire, je pense pas qu'il faille le lâcher par pureté militante. Enfin, ce serait une erreur stratégique dommageable.
Après, pour moi, sur la question des réseaux sociaux, là où il y a eu un changement de la part de Zuckerberg, c'est surtout sur la politique de modération, en fait, qui va faire qu'il y aura encore moins de protection envers la désinformation et le harcèlement en ligne qui vise notamment beaucoup les personnes trans et queer en général. Et ça, je sais pas, pour moi, j'ai pas vraiment de réponses et de solutions à ça, quoi. Mais c'est vrai que, en tout cas, je pense que l'entraide communautaire peut être une des réponses. Voilà, quoi. Parce que aussi, finalement, faire confiance à Meta pour fliquer ses propres réseaux, est-ce que c'est vraiment une solution à long terme, quoi? Je sais pas.
Mais on a vu que ça marchait pas déjà, parce que quand ils s'en chargeaient, ils le faisaient pas,
pas bien,
particulièrement,
quoi,
en tout cas. Donc, à partir de là, qu'aujourd'hui, ils décident d'en faire une espèce de truc un peu plus, un peu comme fonctionne Twitter aujourd'hui, avec quasiment aucune modération et beaucoup de désinformation. C'était déjà le cas auparavant. On verra ce que ça donne à le... Si effectivement on se rend compte que y être, c'est vraiment juste mettre une cible sur sa tête et s'exposer à encore plus de violence, bah, il faudra qu'on réfléchisse à comment utiliser cet outil. Mais c'est y a une réflexion à avoir autour de ça, en tout cas. J'étais pas très, très satisfaite de tout ce que j'ai pu voir ces derniers temps, de gens qui décidaient de lâcher le truc en disant non, mais moi je m'en vais, c'est trop sale pour moi. Enfin, ça faisait vraiment, ça faisait un peu privilège bourgeois, quoi, de se dire moi je peux quitter ce réseau parce que de toute façon j'en ai d'autres, ma communauté va me suivre, etc. C'est pas juste une question d'image et de communauté, en fait, à un moment donné. Il y a des choses qui s'y passent, il y a des liens qui s'y créent. Donc du coup, ouais, ça a du sens d'essayer de continuer à occuper cet espace-là. C'est comme si, en fait, aujourd'hui, demain, une loi transphobe passe, on n'a plus le droit d'être trans dans l'espace public, je continuerai à l'être, en fait. Enfin, je vais pas... ce sera difficile, ce sera compliqué, etc., mais on trouvera des moyens. Et, et c'est transposer ça aussi, quoi. À un moment donné, oui, c'est... facile de quitter un réseau social, c'est un peu plus difficile de faire ça dans le concret. Donc, on peut essayer de rester sur tous les fronts et puis voir ce que ça donne, quoi.
Après, sur le contexte politique en France, moi, l'impression que ça m'a donné, c'est qu'on est dans un moment de flottement, en fait, où on a, comme tu disais, convaincu... on va dire une partie gauche du spectre assez efficacement quand même, j'ai l'impression. Et ça, déjà, c'est pas rien, parce que c'est vrai que il y a 10 ans, c'était pas du tout acquis, quoi, qu'il se passe ça. et en fait, on a convaincu contre nous une partie droite, bon, clairement, mais en fait il y a un flottement entre les deux, quoi, où on sait pas trop dans quel sens ça va tourner, et c'est vrai que c'est un peu flippant. Moi, je trouve ça aussi assez excitant de militer dans ces conditions-là, parce que du coup, on sait qu'on peut avoir un impact, quoi, clairement, là, dans les prochaines années. Ça va être en fonction de... Enfin, sans, faut pas non plus avoir trop les chevilles et tout, mais genre, j'ai l'impression qu'en fonction de ce qu'on fait, ça va aller dans un sens ou dans l'autre, quoi. Et donc, c'est motivant, quoi, pour essayer de faire des choses.
Que d'énergie. C'est sûr qu'il faut rien lâcher. Mais du coup, juste pour dans la continuité, toi, Jade, tu parlais de l'entraide, justement, quand on échangeait sur cette offensive transphobe, on va la nommer comme ça, hein, c'est un peu général, mais... Et du coup, ça nous amène à cette semaine de... Alors, on dit santé communautaire, mais...
Ouais, c'est ça.
C'est ça,
journée du soin
communautaire, voilà.
On aime bien dire soin communautaire.
Ouais, voilà, c'est bien, ce qui me semblait que c'était pas santé communautaire. la deuxième édition, on va dire, 2024, de la semaine de soins communautaires, organisée par donc Clarté. Et du coup, vous pouvez en dire un petit mot, comment ça s'est passé Est-ce que vous en êtes satisfaite? Est-ce que le collectif est content?
Ouais, j'ai l'impression qu'on est globalement plutôt assez content. Enfin...
Oui, c'était très intense dans l'organisation en amont, pendant les journées du soin communautaire, et l'après, je pense que ça aura quelques répercussions, parce qu'en termes de fatigue, ça a beaucoup pris sur l'énergie de beaucoup de militants, militantes de Clarté. Pour resituer, les journées du soin communautaire, ça se passe autour du Tidor, donc qui est la journée du souvenir trans, qui est une journée qui a lieu chaque année depuis 99, pour célébrer les Adelphes qui ont disparu Alors, à la base, c'était les victimes de meurtres qui étaient célébrées. Et puis, bah, on essaye d'avoir des comptes le plus exact possible, en fait, de mort de la transphobie, on va dire, plus généralement. Donc, en France, par exemple, on essaye de décompter aussi les suicides et les morts par overdose qu'on considère comme faisant partie des morts qui sont créées par ce climat transphobe. Donc du coup, le Tidor, on essaye d'organiser des événements de care ce jour-là pour essayer d'être ensemble et puis bah, de à la fois célébrer nos Adelphes et puis bah, se retrouver et puis se faire soin. Et on avait envie de proposer autour de ça différentes activités, que ce soit des conférences, des ateliers d'écriture. Là, cette année, c'est parti spécifiquement autour d'ateliers d'écriture parce que la personne qui a voulu relancer les journées du soin communautaire avait envie de proposer ça, de contacter des différents écrivains, écrivaines et puis de proposer des temps autour de la création et avec cette idée des images réparateur, donc qui était la thématique de 2024, bah justement dans cette idée de comment on peut faire soin, comment on peut imaginer quelque chose aussi de peut-être plus positif que le climat actuel, comment se donner envie d'être ensemble et puis de continuer d'avancer ensemble.
Imaginer aussi dans l'idée que ça puisse devenir réel,
oui, enfin, c'est ça, ouais.
Pas forcément.
Oui, pas juste de l'utopie en fait, c'était ouais, de matérialiser aussi ces idées-là. De toute façon, on était plusieurs à avoir potassé matérialisme trans aussi au moment où on travaillait sur les journées du soin communautaire. Donc du coup, il y avait cette idée aussi de pas forcément tourner aussi qu'autour des transidentités. On avait envie d'ouvrir sur tous les types d'oppressions qu'on peut rencontrer, qui sont souvent à l'intersection des parcours de vie des personnes trans, parce qu'on est rarement que trans. C'est déjà une grosse étiquette à porter, mais en général, ça s'accompagne souvent de problèmes qui vont être aussi bien des oppressions validistes que des oppressions racistes. Après, on peut faire le tour, hein, mais du
de
coup...
De classe aussi.
De classe, beaucoup, ouais. Même si on a des trans-bourgeois, bourgeoises, on en a aussi, mais c'est rigolo, on peut leur prendre de la thune pour faire des cagnottes, du coup, c'est bien. Il nous en faut plus. Donc du coup ouais, c'était de proposer, nous on s'est occupé grosso modo de créer un programme, de trouver des lieux pour pouvoir s'organiser et proposer un peu tout ça, et on a fait appel à toutes les assos, tous les collectifs qu'on connaissait qui pourraient avoir envie de proposer bah, soit une idée d'activité, soit une idée de conférence, et donc de réunir tout ça. Et puis de faire cette proposition aux personnes de Toulouse et alentour sur une semaine qui a duré du coup bah de... j'ai plus les dates, je suis une très mauvaise... Mais je vais
retrouver... novembre.
Ouais, c'était fin novembre.
16 ça a commencé 23,
le...
Non,
ouais, on a
ça.
Commencé...
Le 16, je pense. Ouais. Ah non, le 15.
Là, on a eu le 15.
Le vernissage de l'expo.
C'est ça. On a commencé avec une expo le 15 et on a terminé le 23 avec une soirée à l'impasse. Et il s'est passé tellement de choses en une semaine que du coup, c'était très, très chouette de mettre tout ça en place.
En termes d'invités, du coup, vraiment invités par Clarté pour les ateliers d'écriture et tout, on a eu l'honneur d'accueillir Noah Truong, Michaela Danger et Katie Stewart, c'est ça?
Oui.
J'oublie personne.
Si, il y a une personne qui... je vais être atroce, je vais oublier son nom, mais parce qu'en plus, à ma décharge, l'atelier n'a pas pu avoir lieu, mais qui était un atelier d'écriture pour les mineurs trans.
Ah oui.
Mais on a eu un problème de réservation de salle, et donc du coup, cet atelier n'a pas pu avoir lieu, tout comme la boum des mineurs n'a pas pu avoir lieu, qu'on voulait organiser à la fin pour clôturer. Et donc, est reporté, par contre, on l'a pas fait disparaître pour toujours, elle est reportée pour le printemps. Donc c'est en train de s'organiser avec EM2T, qui est l'espace mineur trans Toulouse, qui fait un gros travail avec les mineurs trans, mais aussi les parents de ces mineurs-là qui veulent bien jouer le jeu et accompagner. Et donc, du coup, l'idée, ça va être de pouvoir proposer cette boom-là, justement, et faire un peu la kermesse qu'on voulait faire pour clôturer et qu'on n'a pas pu faire pour divers problèmes de logistique.
C'était la kermesse avec les barbatata.
Exactement, ouais, c'est ça. On avait fait plein de jeux de mots nuls et du coup il faut qu'on puisse les dévoiler à un moment ou un autre, sinon ça va trop frustrer le pôle jeu de mots de Clarté.
Et ouais, voilà. Pardon.
Non, vas-y.
Non, je me demandais s'il y a eu beaucoup de monde, enfin en tout cas ce que vous attendiez en termes de monde et.
Bah nous on s'attendait pas à grand chose en fait, parce qu'on a bûché sur le truc pendant des mois en se disant ça se trouve on va se retrouver, on était quatre à bosser vraiment à fond dessus, plus tout le support qu'on a pu avoir des autres membres de Clarté qui sont venus nous aider sur des réus, sur de l'orga, bah pareil en amont et pendant et après. Mais du coup, on était. C'est toujours un peu difficile de travailler sur quelque chose puis d'estimer comment ça va, comment les gens vont réagir, est-ce que les gens vont venir, etc. Enfin, il y a toujours cette crainte de se dire, bah en fait, on va se retrouver avec trois personnes et en même temps, ce sera déjà bien, ce sera cool. Et puis, au pire des cas, bah, on aura fait un événement juste pour nous et ce sera très bien aussi. Mais ça, en plus, ça a marché, quoi. Il y a eu du monde à chaque. Tous les ateliers d'écriture ont été remplis, il y a même eu des listes d'attente, donc du coup bah, ça a très bien fonctionné. On a eu quasiment, les salles étaient remplies à chaque conférence. Bon là on est encore en train de travailler un peu sur les retours de tous les assos et collectifs qui ont pu participer. Il y a eu quelques, je pense qu'il y a eu quelques couacs, mais bon c'est toujours pareil, c'est des choses qu'on va revoir au fur et à mesure pour les prochaines éditions, parce qu'a priori, je pense qu'on va remettre ça à un moment ou à un autre. Mais du coup, ouais, ça. On a été jusqu'à. Parce qu'on a tenu les comptes des personnes, et je crois qu'on a été jusqu'à des 200 personnes par. Sur le Tidor en lui-même, qui est quand même la grosse journée centrale, on était à 260 personnes à peu près. Et on a réussi à faire une manifestation dans Toulouse avec plus de 200 personnes. Donc une manifestation de 200 personnes trans qui prennent l'espace public, c'est pas souvent que ça arrive. Hors la grande marche trans parisienne de l'existence inter. Mais donc du coup c'était assez un moment de fierté aussi de pouvoir proposer ça et de le mettre en place. Donc du coup il y a eu beaucoup de belles choses comme ça. Et on a eu beaucoup de retours très positifs. En fait, ce qui a vraiment été très plaisant, c'est de voir que les personnes sont venues participer et se saisir des propositions qu'on faisait. Et que c'était pas juste descendant, où on faisait une proposition et puis il y avait une consommation passive des événements. L'exemple que je vais garder en tête pendant très longtemps, je pense, c'est on a fait une table ronde autour des traumas complexes, et la personne qui avait prévu son exposé, on va dire comme ça, avait bossé dessus pendant des mois, je le suivais, j'en discutais avec lui au fur et à mesure, il avait fini par écrire un pavé de 300 pages qui était complètement imbitable et impossible à présenter, donc il avait réussi à restreindre sa présentation à une quinzaine de pages, mais c'était déjà énorme pour juste une heure, et en fait il a perdu tous ses moyens au moment de commencer la présentation, et c'est la salle qui s'est emparée du sujet et qui a commencé à le porter, et il y a des gens qui sont intervenus, qui ont proposé justement de... Bah, on lui dit ouais non mais t'inquiète pas, c'est normal de cafouiller, donc bah vas-y tiens, t'as commencé à lancer cette idée, bah est-ce que tu veux pas développer ça j'ai pas compris. D'autres qui avaient des connaissances sur le sujet ont pris le relais et on s'est retrouvé avec une conférence portée par par les participants de la conf, quoi. Et c'était juste trop bien parce qu'on voulait justement faire soin, et là j'ai vu en direct des gens prendre soin de l'intervenant, et c'était très beau à voir. Et il y a eu plein de moments comme ça justement de soins collectifs. Il y a eu un atelier sur l'amitié qui a porté ses fruits, parce qu'il y a des gens qui se sont rencontrés sur cet atelier et qui ont participé à d'autres événements par la suite ensemble. Donc du coup, on a même réussi à créer des débuts d'amitié à ce moment-là. Enfin, c'était très, très enrichissant là-dessus, sur ce que ça a apporté. En tout cas, c'était très satisfaisant à ce niveau-là. Sur la partie plus... plus organisationnel. On sent qu'il y a eu une grosse fatigue et qu'il y a une partie de l'équipe qui, à un moment donné, a poussé ses limites. Et là-dessus, il faudra qu'on retravaille un peu pour justement moins puiser dans les ressources. Mais ça... Moi, j'arrive pas à être entaché par ça, mais parce que je crois que je suis la personne qui a été le moins impactée. J'en suis ressorti et puis je suis allé faire d'autres trucs direct après et j'ai pas eu besoin de. Je me suis pas reposé à la sortie des journées sans communautaires. J'ai enchaîné avec d'autres. Il y avait d'autres trucs à faire, donc je suis allé enchaîner et j'ai pas vu l'épuisement. Mais parce que moi, je suis en burn-out depuis 2 ans, donc du coup, ça va. Je suis dans le déni, donc du coup ça fonctionne. Mais je,
c'est un état général.
C'est stationnaire, c'est comme ça. C'est genre, ça va, on a l'énergie, on avance. Donc du coup, ouais, faut. Mais on a réussi à prendre soin, justement, c'était ça qui était très chouette aussi, c'est qu'on se faisait des points réguliers tous les jours. On avait un petit moment comme ça où on s'appelait pour essayer de voir un peu qui était au bout de ses ressources, qui avait besoin de faire une sieste, etc. Et puis ça a vraiment soudé aussi, soudé un peu, encore un peu plus, parce que j'avais l'impression qu'on avait déjà, oui, dans les grands événements de 2024, on a fait des vacances communes à Clarté, ça c'était chouette.
Ah oui, c'est
ça
vrai.
Ça avait été un grand moment justement pour souder les, souder les personnes. Et on a retrouvé de ça, justement, de ce truc-là, d'avoir vraiment toujours quelqu'un qui était en veille quand on sentait qu'on était en train de déborder. Et je crois que c'est la meilleure façon de faire du militantisme, en fait, de faire du care, effectivement, pour les autres, parce qu'on est là pour ça, et c'est un peu la vocation qu'on a choisie en étant militant-militante de ces assos-là ou de ces collectifs. Mais en même temps, de ne pas s'oublier là-dedans et de ne pas oublier de prendre soin aussi des membres de l'asso. Et ouais, il y a beaucoup de douceur dans tout ça, en fait. Moi, c'est quelque chose qui va me manquer à Clarté, ce truc-là. Même si je le retrouve ailleurs, même si je le construis dans d'autres collectifs. Mais ça a été particulièrement intéressant d'apprendre ça, en tout cas. D'apprendre à militer, mais aussi à prendre soin et à respecter les limites des personnes, à essayer de justement être dans la veille active et de pas, c'est pas parce que oui, effectivement, on court dans tous les sens et qu'on s'agite partout que c'est le cas pour tout le monde et que ça avance plus vite, en fait. Donc non, c'était bien d'apprendre à savoir dire stop, à savoir annuler des choses aussi. Jade nous a appris à annuler des choses, c'était bien. On en a eu besoin.
De savoir. Bon, je pense que vous saviez faire, c'est juste que
on n'était pas partis pour, en tout cas.
Rappeler que c'était possible, quoi.
Oui, ouais. C'était important, ouais, qu'on puisse nous le rappeler à un moment donné, ouais.
Oui, juste, il reste 5 minutes.
Ah ouais,
c'est ce que j'allais dire. On a dit la même chose en même temps.
C'est passé vite.
C'est passé très vite, mais c'est normal. Hein, et vous avez plein de choses à dire, à raconter. C'est juste que du coup, il n'y aura pas d'autre pause musicale parce qu'il ne reste que 5 minutes. Je préviens le camarade qui est dans le studio. Et juste, peut-être pour finir, 2025. Déjà, il y a eu un peu des choses dites sur la lutte et de rien lâcher et de continuer un peu. Mais voilà, 2025 pour Clarté, ce serait quoi ? Qu'est-ce qui nous attend ? Et qu'est-ce qui vous attend ?
Qu'est-ce qui nous attend ? On espère des beaux moments collectifs déjà, parce que là, on va accueillir normalement 4 nouvelles personnes qui vont nous rejoindre dans les semaines qui viennent. Et donc, on a hâte de les rencontrer. Et d'ailleurs, s'il y a d'autres personnes qui nous écoutent, qui aimeraient nous rejoindre, il ne faut pas hésiter à nous contacter par les réseaux sociaux qu'on n'a toujours pas quittés, hein. ou par mail, tout simplement, pour nous proposer des choses. Voilà, on est ouvert à plein de projets. Nous, de notre côté, là, ce qu'on a un peu sur la planche, c'est... toujours cette histoire de formation qui est déjà en train de se caler. Je pense qu'il y a déjà des demandes de toute façon de formation. Il y a le pôle social, le pôle accueil pour essayer d'aider la communauté. Il y a aussi le pôle santé dont on n'a pas trop parlé pour l'instant, mais qui est aussi un gros
chantier de 2025.
Gros chantier de 2025 parce qu'on essaie de... peut-être mettre en place une permanence santé. On participe aussi à une étude d'envergure nationale sur la santé trans, dont on va recueillir On va faire passer des questionnaires. D'ailleurs, si vous êtes concerné et que vous voulez passer un questionnaire sur votre santé, participer à cette recherche dont on espère qu'elle produira enfin des chiffres fiables sur le contexte de la santé trans en France, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Sûrement que vous en entendrez parler. On va vous embêter avec ça toute l'année.
Oui, puis pour l'année d'après, parce que je crois que c'est sur un
an
et demi.
C'est sur un an et demi.
C'est une vraie première recherche avec des questionnaires qui vont être tous les 6 mois, si je ne dis pas de
bêtises.
Voilà,
c'est une étude longitudinale où il y aura 3 questionnaires à passer et qui concernent tous les domaines de la santé, quoi. Du coup, c'est en collaboration entre des assos trans et des universitaires qui font de la recherche. Après on va sûrement du coup faire une sorte de kermesse à un moment au printemps, a peut-être priori, autour de la journée de visibilité de trans.
Je crois que ça se goupillait comme ça d'après voilà. Les envies.
Sûrement aussi des choses autour du Tidor, donc en novembre, mais ce sera pas de journée du sang communautaire cette année. A priori, s'en tenir à tous les 2 ans maximum, c'est déjà beaucoup.
Pour s'en remettre.
Ouais,
une
c'est
année.
Ça. Un peu de temps pour s'en remettre.
Ouais, puis pour préparer aussi, tout simplement.
Et préparer,
en amont, réfléchir aux envies, à voir ce qu'on peut continuer à proposer par rapport à ça. Ouais.
Ouais.
Bah, dis donc,
vaste
programme hein, 2025. Tu sais, c'est une année, je sais que ça va être une année particulière, l'année 2025, dans plein d'aspects.
On mettra de toute façon sur la page, sur notre page de Brasero, tous vos réseaux sociaux et le mail. Peut-être tu peux juste le dire.
Ouais, le mail principal c'est clar.t.contact@gmail.com.
Voilà. Bah super. Bah merci beaucoup.
Ouais, vraiment merci.
Super. Bah merci, un grand plaisir. Merci pour l'invitation.
Puis à la
prochaine fois,
pour ça veut dire ça, la suite.
De nouvelles aventures.
Merci à tout le monde d'écouter. Et la semaine prochaine, il y aura une diffusion d'une chronique amère. Voilà, il n'y aura pas de plateau. Voilà, bonne semaine à tout le monde.
Bonne
et
semaine,
merci à
bientôt.
Salut.
Au revoir. Salut.